Balabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Palabre en forêt sur Barthès 107 FM. Bonjour Virginie.
Bonjour Margot, bonjour à toutes et tous.
Alors qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui on va rencontrer Elisabeth Mézière, elle est tourneuse sur bois à Chambourigo et elle va partager avec nous donc son métier qui est aussi sa passion. Et ensuite, on rejoindra eh bien Aymeric Sulmont, garde-moniteur au Parc National des Cévennes, qui va nous parler aujourd'hui d'une essence bien appréciée, si on ne se trompe pas, des tourneurs sur bois, le merisier.
Et tous ses cousins.
Ah. Bonjour Elisabeth Mézière.
Bonjour.
Alors Elisabeth, première question, est-ce qu'on dit tourneuse ou tourneur sur bois pour une femme ?
On dit tourneuse.
Ok, super. Alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Depuis combien de temps vous êtes tourneuse sur bois et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier ?
Alors je suis tourneuse sur bois depuis à peu près 1998, mais à mi-temps. J'ai exercé un autre travail à mi-temps à côté parce que j'avais trois enfants et qu'il fallait un peu un travail un peu fixe, je vais dire, salarié sécuritaire. Et puis en 2007, je me suis installée à plein temps en tant que tourneuse sur bois.
Ok. Et du coup, pourquoi vous avez commencé à faire ce
Alors,
métier ?
Alors, j'ai commencé tout à fait par hasard. En fait, mon compagnon est sculpteur et il pratique le tour aussi. Et il y avait un tour dans l'atelier, mais lui, il faisait que des pièces artistiques. Et j'avais très envie de fabriquer ma vaisselle, en fait.
Ok.
Moi, j'ai fait une école hôtelière, donc je suis vraiment... la cuisine, c'est vraiment une de mes passions. Et je trouvais que la vaisselle en bois qu'on trouvait sur les marchés quelquefois, ben c'était plus un peu de bouche-trou pour gagner un peu d'argent parce que c'est quelque chose qui se vendait. J'avais envie vraiment de fabriquer de la belle vaisselle en bois, enfin de m'éclater vraiment là-dedans, quoi. Et j'ai commencé à la fabriquer pour moi et je me suis dit que bah pourquoi pas. Et puis voilà, et c'est parti comme ça.
Ok, super. Et du coup, Virginie a dit en introduction, votre atelier est à Chambourigo, c'est ça ?
Oui. Okay. C'est ça.
Super.
Et alors, en quoi consiste votre métier de tourneur sur bois ? Et est-ce que vous savez si vous êtes nombreux en Cévennes ?
Alors, on n'est pas très nombreux en Cévennes, on est quelques-uns, mais c'est quand même un métier discret. De toute manière, on n'est pas très nombreux en France par rapport aux potiers, par exemple, où ils sont vraiment très nombreux. Nous sommes vraiment une minorité, surtout professionnelle. C'est pas non plus un métier qui est beaucoup représenté. Qu'est-ce que c'était votre première question ? Excusez-moi, je me souviens plus.
Pas de souci. C'est en quoi consiste le métier de tourneur sur bois ? Qu'est-ce que vous faites ?
Eh ben, ça consiste à prendre un morceau de bois, à le mettre sur un tour à bois.
Oui.
Un tour à bois, c'est comme un tour de potier, mais au lieu qu'il soit vertical, il est horizontal. Okay. Donc, on fixe la pièce de bois dessus et avec des gouges, on la façonne, on la creuse, on lui donne une forme, on la travaille comme ça, en fait. C'est le tour qui fournit la force, mais c'est nous qui tenons les outils et qui façonnons la pièce, en fait. Exactement comme de la terre, à part qu'on peut pas rajouter. Si on enlève de la matière, on enlève de la matière.
Ok, et c'est n'importe quel type de bois ?
Alors, ça peut être n'importe quel type de bois selon sa production. Pour la vaisselle, non, c'est pas n'importe quel type de bois. Il y a vraiment des règles à respecter. On prend pas de résineux, par exemple. Okay. C'est beaucoup les fruitiers, du chêne vert, du frêne, des bois durs, résistants et compatibles alimentaires, bien sûr, pas d'IF, voilà.
D'accord. Il existe des formations, en fait ?
Oui, il existe des formations. Il y a des lycées qui font des CAP de tournage sur bois. Il y en a à Moire en Montagne, dans le Jura, et à Revel en Haute-Garonne. où là, les jeunes peuvent faire des CAP tournage sur bois. Et ensuite, il y a une école de tournage sur bois qui s'appelle l'école Escoulaine à Aiguines dans le Var. Là, c'est des formations pour adultes, donc qui proposent une formation longue de plusieurs mois, mais aussi des stages d'une semaine à thème. Ça peut être sur la sculpture, ça peut être sur le bois vert, sur les formes refermées, enfin vraiment des stages à thème.
Et nous avons vu que sur votre site internet, vous proposez aussi des stages. En quoi consistent ces stages? Qu'est-ce que vous leur proposez de faire? Et est-ce que tout le monde peut être stagiaire auprès de vous?
Oui, bien sûr. En fait, les stages, moi, je prends jamais plus d'un ou deux élèves. Donc, les stages sont à la carte, en fait. Donc, c'est souvent des stages débutants. C'est-à-dire qu'on apprend à connaître la machine déjà, on apprend à se servir des outils, à connaître les bois et à fabriquer des objets. Mais selon le niveau du stagiaire, ça peut être aussi des stages de perfectionnement, quelqu'un qui veut se perfectionner dans une technique particulière, le bois vert, les formes refermées, le translucide. Voilà, c'est très ouvert en fait, c'est à la carte.
Et parlons du coup de bois. Comment vous trouvez vos bois? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est difficile de trouver le bon bois pour tourner? Voilà.
Alors, c'est difficile et c'est facile en même temps. Ça dépend des périodes. En fait, moi, je trouve les bois, c'est du bouche à oreille uniquement parce que je travaille le bois vert. Parce que je fais des grosses pièces, souvent des gros saladiers, donc il me faut des grosses sections pas fendues, donc il me faut du bois vert. Donc en général, c'est du bouche à oreille dans le village. Là, je suis allée chercher de l'acacia parce que une amie au camping coupait ses acacias et elle m'a appelée en me disant « Est-ce que ça t'intéresse ?» Mon voisin qui est paysan me fournit beaucoup en merisier et en chêne vert aussi. En fait, quand les gens me connaissent, et plutôt que le bois parte en bois de chauffage, ils m'appellent et soit je le rachète, soit on fait du troc, soit on coupe les arbres à la place parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Voilà, ça se passe comme ça en général. Alors, c'est facile dans le sens où des fois j'ai plein de bois et puis des fois je sais pas ce qui va arriver quoi.
D'accord. Et donc vous dites bois vert, donc voilà, c'est du bois frais, vous le laissez pas sécher.
Voilà. OK. Oui, sinon il serait fendu.
Et oui.
Donc il me faut des sections de bois pas fendues.
D'accord. Et quels sont les bois que vous préférez?
Alors là, c'est toujours la question qu'on me pose et c'est très compliqué parce qu'il y en a plein.
Ok.
J'aime beaucoup le cerisier et le merisier. Le micocoulier, c'est vraiment un super joli bois qu'on trouve un peu plus dans la plaine. Le chêne vert, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'acacia parce que c'est vraiment un rendu qui est vraiment très beau. Puis c'est un bois très, très dur, très dense. Mais il y en a plein. Hein. Enfin, tous les fruitiers en général sont très beaux, mais c'est vrai que le cerisier, c'est vraiment... c'est vraiment chouette. Ça sent bon et oui. Quand on travaille le bois vert, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les odeurs en fait.
Ah, d'accord.
Qu'on n'a pas avec le bois sec. Et le cerisier sent le kirsch très fort et c'est très
Il est enivrant.
Et tout à l'heure, vous nous avez donc expliqué que vous fabriquiez de la vaisselle. Est-ce que vous concevez aussi d'autres pièces?
Oui, je fais aussi des pièces, comme je dis, entre guillemets, qui servent à rien, mais ce qui est faux, parce que ça sert pas à rien, ça sert à être beau.
Oui.
Je fais des pièces en translucide, mais uniquement quand j'ai des micocouliers, parce que c'est vraiment le bois qui s'y prête. Et j'aime bien faire des pièces très très fines, à 1 mm d'épaisseur, et en translucide, voilà. Mais
c'est de l'art.
Quand j'ai ce bois-là, quoi.
Ok, super. Et est-ce qu'il y a des choses que vous préférez faire, ou chaque objet a sa spécificité, vous aimez travailler tout type d'objets?
J'aime beaucoup faire le bol, que ce soit le petit bol ou gros saladier, le creusage du bol, c'est vraiment, c'est jamais pareil, quoi. La forme, avoir la forme parfaite du bol, enfin, parfaite à mes yeux, hein, bien sûr, hein, en toute modestie.
Oui.
Mais la courbe, c'est vraiment une émotion, quoi. Mmh. C'est vraiment quelque chose de...
Et je dois avouer, en fait, aux auditrices et aux auditeurs que j'ai un bol de vous.
Ah bon?
Et oui, et qu'on m'a offert. Et vraiment, effectivement, je l'adore. il est très joli au niveau des courbes, comme vous dites, et à la fois très pratique, il se nettoie très bien. Voilà,
mais c'est ça la difficulté de la vaisselle, par contre. C'est qu'il faut qu'il soit... quand on fabrique un objet esthétique, on lui demande d'être beau. Voilà, on lui demande d'être beau. Quand on fabrique de la vaisselle, il faut qu'elle soit belle, et il faut qu'elle soit fonctionnelle, et il faut qu'elle soit robuste.
Ouais, donc, voilà.
C'est quand même un peu un challenge avec la vaisselle.
Oui.
Parce qu'on n'est pas dans le bois et ça peut fendre. Donc, moi, j'ai résolu le problème. S'il y a un accident, je change.
Ah, d'accord.
Vous le saurez. Il y a le
SAV. Très bien. Merci. Et justement, où est-ce qu'on peut trouver vos objets? Est-ce qu'on les trouve chez vous ou en
Alors,
boutique?
Chez moi, c'est compliqué parce que je suis vraiment dans un endroit assez isolé. Donc, j'ai uniquement ce qui est en cours. Là, j'ai quelques bols qui sèchent. J'en ai un peu en stock, mais pas énormément. Enfin, de la vaisselle, pas que des bols, d'ailleurs. Mais sinon, je fais partie d'un groupement de producteurs et artisans qui est à Toiras, entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard. C'est une grosse boutique de producteurs et artisans qui s'appelle Terroir Cévennes. Et en fait, là, je pose tout à chaque fois. Je fais des permanences, on se relaie pour tenir la boutique. Enfin, c'est vraiment de la vente directe, donc c'est les prix d'atelier, en fait.
Très bien. Voilà, des petites idées de cadeaux de Noël. Et on vous trouve ailleurs, peut-être,
Alors,
sur le territoire
Ouais, je fais des foires aux plantes, en fait, parce que j'aime bien l'ambiance des foires aux plantes. Je fais quelques foires d'artisans, mais de moins en moins, en fait. J'avoue que j'aime bien les foires aux plantes, donc je vais à Quissac, là, la foire de Quissac, qui vient de se terminer. Mm-hmm. Je fais Gros-Pierre en Ardèche.
D'accord.
Et puis, je fais les jardins d'Albertas aussi, entre Aix et Marseille, voilà.
Très bien. Et sur Internet, est-ce que c'est possible aussi
Alors,
de retrouver...
Sur Internet, j'ai un site, bien sûr, à mon nom.
Très bien.
Le souci, c'est que comme je travaille le bois vert et que je ne sais jamais ce que je vais avoir comme bois, c'est très compliqué pour moi de travailler sur commande. Par exemple, si personne me commande un saladier en merisier et qu'à ce moment-là, je n'ai pas de merisier, ben, c'est pas facile, en fait. Donc, c'est vraiment pas une façon de travailler qui me convient trop, le travail sur commande.
D'accord. Après, on peut conseiller à nos auditrices et auditeurs de se rendre sur votre site internet pour voir ce que vous faites.
Oui.
Vous pouvez nous rappeler votre...
elisabethmezières.com.
Tout simplement. Merci.
Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à une personne qui est intéressée par le travail du bois et notamment qui voudrait devenir tourneur?
Alors, se former déjà, c'est important. Parce qu'un tour, ça peut être dangereux, donc il faut pas faire n'importe quoi, notamment avec les vidéos YouTube où il y en a des très très bonnes, mais il y en a qui sont vraiment limite dangereuses, donc il faut faire attention. Donc se former auprès de tourneurs ou dans une formation comme à Egin. Aller voir plusieurs tourneurs différents. En général, c'est un milieu où, comme on n'est pas nombreux, on est très ouvert. On partage, on échange. Il y a vraiment cet esprit-là dans les boiseux, comme on dit. Et puis pratiquer. Quand on s'est formé, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pas hésiter à refaire plusieurs fois le même geste, à faire du bol pendant 15 jours. Vraiment refaire le même geste tout le temps. Et c'est la pratique, en fait. Hein.
Très bien, merci.
Et pas hésiter à aller voir d'autres tourneurs, plein de tourneurs différents, parce qu'on a tous nos méthodes. Il y a une règle dans le tournage, on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on a tous nos méthodes, c'est un peu un métier de bidouilleur. On a un peu tous nos affûtages.
Il y a différents gestes.
À travailler.
Voilà. Très bien, merci. Et du coup, on vous propose de clôturer cet échange par un petit mot. Alors non, on ne clôture pas l'échange, on me fait des signes en studio. Aymeric Silmon aurait une question.
Oui, voilà, moi je suis pas forcément amateur de vaisselle en bois, mais je demande à être conquis. J'ai une amie qui est déjà conquis et qui utilise beaucoup de vaisselle en bois. Au niveau de l'entretien, est-ce que toi tu as des conseils? Parce qu'il me semble que c'est quand même particulier.
Oui. Enfin, pas de micro-ondes et pas de la vaisselle.
Pas de micro-ondes, voilà. Pas de la vaisselle, ça, ok.
Après, c'est pas... en fait, il faut pas la laisser tremper, la vaisselle en bois. Donc, ça veut dire que si vous faites pas votre vaisselle tout de suite, que ça traîne dans l'évier, c'est sûr que ça va fondre. Moi, j'ai des enfants qui ont de la vaisselle en bois. Il y en a un, il éclate toute sa vaisselle et l'autre, pas du tout. Donc, c'est vraiment une pratique, en fait. En fait, quand on est à une assiette ou un bol, on le lave au produit vaisselle à l'eau chaude, il n'y a pas de souci. Et on l'essuie et c'est tout. Mmh. Voilà. Et de temps en temps, sur un sopalin, un bout de tissu, on la rehuile avec une huile assez neutre, tournesol, pépins de raisin. Moi, je fais une finition huile de tournesol et cire d'abeille. Je fais une popote, comme on appelle, ça fait une pommade, et je sature mes bols avec ça. Donc de temps en temps, au début, on le renourrit. Après, il n'y en a plus besoin. À l'utilisation, il se patine en fait, et ça se patine. Il faut accepter que ça va se patiner, la vaisselle en bois, par contre.
Oui,
d'accord. Mais du coup, j'en profite pour faire une remarque sur l'intérêt de la vaisselle en bois. D'un point de vue écologique, peut-être on n'y a pas pensé, mais pour la fabrication, une vaisselle en bois, ça consomme nettement moins d'énergie que de la céramique. Et l'autre avantage, c'est pas du tout forcément écologique, mais c'est pour la sauvegarde de nos couteaux. Quand on coupe sur du bois, on abîme nettement moins bien.
À des couteliers.
Ouais. On n'abîme vraiment pas nos couteaux, beaucoup moins en tout cas.
On ne désaffûte pas les couteaux et je vends pas mal d'assiettes à des couteliers.
Voilà.
Mais il y a vraiment un avantage à la vaisselle à bois, c'est le son. Quand on mange dans une vaisselle en bois, on n'a pas du tout le même son aussi.
C'est vrai.
Ça, c'est très agréable.
Oui, il y a une acoustique
À ça, je confirme parce que l'ami qui je partage ma vie, qui a beaucoup de vaisselle en bois. Effectivement, quand on met la table, c'est doux, il n'y a pas ce bruit. Quand on fait tomber la vaisselle par terre, c'est moins grave, ça réveille moins les enfants. Enfin, ça a plein d'avantages, en fait.
Et puis, dans le sac à dos, ça ne se casse pas.
Tout à fait, c'est léger.
Voilà, on peut l'amener un peu partout.
Merci.
Non, il y a plein d'avantages. Alors, c'est sûr qu'il y a des inconvénients. Le micro-ondes et la vaisselle, bon, moi, je n'en ai pas ni l'un ni l'autre, mais il y a des gens que ça fait reculer, hein, ça, c'est sûr.
Mais merci en tout cas pour tous ces bons conseils. Et on vous propose du coup de donner un petit mot forestier ou un petit mot bois, si vous souhaitez en ajouter un.
Vous m'en aviez parlé, donc la chose qui m'est venue à l'esprit tout de suite en fait, c'est un livre. C'est une nouvelle de Jean Giono, c'est l'homme qui plantait des arbres.
Bien sûr.
Parce que je trouve que c'est vraiment, ça a été écrit dans les années 50 et c'est encore plus d'actualité en fait.
Merci Elisabeth Mézières.
Ben, merci à vous.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
On retrouve Émeric Sulman pour sa fameuse rubrique. Alors tout d'abord quand même un petit au passage, un grand remerciement à Corto, à notre grand technicien de Bartas Corto pour ses génériques, voilà, qui sont à la fois fameux et souriants. Bonjour Émeric Sulman.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, eh bien, on reste dans le thème et tu vas nous parler de merisier.
Oui, c'est toi qui m'as proposé, puis c'est en fait notre invité qui nous l'a proposé. J'ai pensé parler en fait un peu plus largement du cerisier et du merisier et de tous ses cousins, en fait, qui sont tous du genre en latin qu'on appelle prunus. Voilà. Et du coup, je me suis intéressé à ce qu'on avait dans nos bases, en biodiversité.
Au parc national.
Ouais, sur l'outil qui s'appelle Biodiv Cévennes. Et en fait, on a 11 espèces différentes qui sont répertoriées sur le territoire du parc. Et dont la plupart, vous les connaissez toutes, évidemment. Et je vais vous parler un peu plus en détail de celles qui sont sauvages. Mais dans les classiques, on répertorie quand même quelques espèces dites domestiques. Donc vous connaissez bien l'abricotier, le pêcher, l'amandier, le prunier, le cerisier. Mais peut-être un peu moins le mirobolant. Est-ce que vous connaissez le mirobolant ?
Pas du tout.
Alors le mirobolant, c'est un arbre qui est utilisé comme porte-greffe. C'est ce fameux prunier à feuilles rouges qu'on voit dans les parcs et jardins. Il n'a pas du tout il est rarement autochtone et naturalisé dans la nature, mais ça arrive.
D'accord.
C'est pour ça qu'il est noté dans nos bases. Et puis, ce que j'appelle moi le béton vert, ça tout le monde le connaît, le béton vert. C'est le laurier cerise ou prune.
D'accord.
Et qui est une plante très utilisée dans les haies, mais qui a la fâcheuse tendance à être très monotone sur toute l'année parce qu'il est taillé. On a l'impression d'avoir fait un mur en béton vert.
Ah,
c'est pour ça que j'appelle ça le béton.
D'accord,
vert.
On comprend.
Voilà, du coup, on est plus en ce moment à militer pour des espèces qui font des fleurs et qui sont mellifères plutôt dans nos haies que du béton vert. Mais si on le laisse fleurir, le laurier cerise, ça reste un cerisier, donc il fait des belles grappes de fleurs. Seulement, le gros défaut qu'il a, c'est une des plantes les plus utilisées en France et dans le monde pour faire des haies, c'est qu'il est toxique dans la plupart de ses parties, que ce soit les noyaux qui sont extrêmement toxiques ou les feuilles, il y a des composés cyanurés, en fait, dedans.
Et
c'est-à-dire que s'ils sont ingérés au bout d'un certain temps, surtout l'amande peut provoquer la mort si elle est utilisée en trop grande quantité. Et c'est le cas d'ailleurs de tous les noyaux du genre Prunus. À forte dose, ils contiennent des composés cyanurés qui sont toxiques à forte dose. Et donc, voilà. Il y a l'amande qui a été un peu sélectionnée pour être moins toxique, mais ce goût d'amande, en général, c'est qu'il y a un peu de cyanure dedans. Enfin, c'est proche du cyanure, donc il ne faut pas en abuser. Mais bon, voilà. C'est un petit détail, mais il faut retenir. Moi, ce que je voulais insister sur toutes ces espèces qui sont... l'abricotier, pêcher, amandier, tout ça, ce sont des espèces qui viennent d'Orient. Et qui, si on regarde les répartitions originelles de ces espèces, elles se situent toutes globalement sur la route de la soie qui vient de Chine en passant par le Caucase. Et quand on recherche les noms latins de ces espèces, je pense à l'abricotier, c'est Prunus armeniaca. Ça fait référence à Arménie, mais ça vient pas d'Arménie en fait, ça vient d'encore plus à l'est. Dans les provinces du Tien Shan, en Iran et en Inde, voilà. Dans ces secteurs presque dans l'Himalaya, en fait. D'accord. Et c'est pareil pour le pêcher, Prunus persica, qui vient de Perse, et du Tibet. C'est des espèces qui se sont beaucoup diversifiées dans ces chaînes de montagnes entre Caucase et Chine. L'amandier, c'est pareil, ça vient du Caucase. Le béton vert dont je parlais tout à l'heure, c'est également une espèce du Caucase et de Turquie. Et les pruniers domestiques, qui a plein de sous-espèces. Vous avez la reine Claude, qui, elle, vient de, si je me souviens bien, qui s'appelle sous-espèce italica, qui vient d'Italie. Il y en a une qui s'appelle sous-espèce syriaca, c'est la Mirabelle. Et il y en a une autre qui vient, qui est le ketch, qui vient de Damas, également de Syrie. Donc toutes ces espèces, finalement, qui sont extrêmement présentes dans nos vergers et dans nos jardins, sont originaires, finalement, de ces voyages, en fait, d'arbres et de plantes qui viennent de Chine.
Et justement, comment elles ont voyagé, en fait, ces espèces, naturellement?
Très probablement depuis, bien avant l'Antiquité, puisque les premiers cas de plantes abricotiers, amandiers étaient cultivés par les Romains, les Grecs, etc. Et donc, c'est des voyages de proche en proche, depuis le Proche-Orient, voire au-delà la Chine. Et qui ont fait, donc ça fait plusieurs milliers d'années que ça voyage, et qui ont conquis quasiment toute la planète. Mm-hmm. Donc ça, c'est le petit côté histoire et géographie. Et puis, je vais rentrer dans les vraies espèces autochtones, et d'espèces qu'on peut considérer comme autochtones, qui n'ont pas été plantées, amenées. On en a quatre en Cévennes, donc je pense que vous les connaissez, au moins les deux premières, le prunelier ou l'épine noire. Mm-hmm. C'est le truc qu'on n'a pas envie de traverser quand on balade. ça pique, ça fait des fruits qui sont très, très âpres, qui vous dessèchent la langue. Soi-disant qu'on peut manger quand ils ont gelé, mais même, c'est vraiment pas très bon. Mais certains arrivent à le distiller, évidemment. On fait toujours tous les fruits sont distillables, hein, si on écoute les Alsaciens. Et le merisier, ça, évidemment, on en a parlé. C'est un bois qui est très utilisé par les tourneurs, notamment, qui est très beau et qui est bien présent, effectivement, en Cévennes. On attend tous avec impatience le mois d'avril, où quand il n'y a pas encore une seule feuille sur les arbres des Cévennes, on voit tous les vallons des Cévennes qui sont marqués par la floraison blanche des merisiers. Ça, c'est assez marquant. Et puis, je vais vous parler de deux arbres un petit peu moins connus. Le prunier de Sainte-Lucie, est-ce que vous savez ce que c'est?
Je comprends. Un petit prunier, non? Il me semble aussi...
Oui, alors c'est un prunier qu'on trouve dans la garrigue, qui fait des tout petits fruits qui ont quasiment pas de chair, donc ils ne sont pas consommables par nous. Mais son nom latin, c'est Prunus mahaleb. Mahaleb, c'est un nom arabe, d'origine arabe, qui désigne en fait l'épice qui est extraite à partir du noyau Je disais tout à l'heure que les noyaux des pruniers, il faut s'en méfier.
Oui.
Mais il y a une épice qui est dérivée, donc je suppose qu'il ne faut pas en consommer en grande quantité, et qui a un fort goût d'amande amère, et qui s'appelle le mahaleb. Donc vous chercherez, le mahaleb est beaucoup utilisé dans la cuisine moyenne-orientale.
Okay.
Et ça sert à cuisiner des pains, des fromages, enfin ça donne ce petit goût d'amande. Voilà, j'ai cherché parce que je savais pas tout ça. Le mahaleb, c'est très très curieux. Donc ça, c'est un arbuste qui fait pas très grand, qui fait 4-5 mètres de haut, qu'on trouve dans les garrigues et qui a des feuilles très en cœur, très pliées. C'est assez particulier. Et le dernier, c'est le plus rare. Ça s'appelle le cerisier à grappes. Bois puant. Et justement, c'est un... Alors, tout à l'heure, elle disait que ça pouvait sentir le kirsch, le merisier, ça,
celui-là.
D'accord. Mais le bois puant, il pue.
Ah,
il sent mauvais. Il porte assez bien son nom. Ouais. Il a une odeur d'amande, mais acre et pas très agréable, d'après ceux qui l'utilisent. Alors, il n'est pas connu que pour son côté nauséabond, le cerisier à grappes. C'est un arbre qu'on trouve, alors, en Cévennes, de manière vraiment exceptionnelle, le long du Tarn, notamment en amont de Pont-de-Montvert, qu'on a trouvé vraiment avec un peu de chance là, dans ce coin-là, et qui est beaucoup plus présent en Aubrac et un petit peu en Margeride, et qui est très spectaculaire parce que ça ressemble de loin en fait à un cerisier, mais en fait sa floraison, au lieu de faire des petites fleurs par-ci par-là, ça fait des très belles grappes qui pendent, et quand il est en fleurs, l'arbre est vraiment très spectaculaire et il évoquerait presque les fameux cerisiers du Japon que j'ai pas évoqué. Et donc voilà, c'est un arbre qu'on considère comme patrimonial du coup pour les Cévennes, le cerisier à grappes.
D'accord.
Alors je termine par 2-3 petites anecdotes parce que tout le monde connaît l'usage des queues de cerise.
Mmh. Oui.
Ça c'est quand on a besoin de faire pipi, c'est extrêmement efficace. Ça c'est connu depuis très longtemps. Mais les médecins, ils étudient tout, hein, ils essayent tout, ils mélangent tout. Enfin, ils ont fait plein de choses. Alors il y a une petite anecdote qui est rapportée là dans le bouquin que je conseille, mais je sais pas si quelqu'un l'a retrouvé. C'est le traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes de Cazin, Z-I-N. Ça date de 1879. Donc, tout ce qui est dedans, il ne faut vraiment pas le prendre à la lettre parce que c'est très dangereux. Et donc, il y avait une croyance qui pensait que l'écorce de cerisier avait les mêmes propriétés fébrifuges que le quinquina, ce qui est totalement faux. En fait, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, ça se ressemble fort. Les deux écorces se ressemblent fort. Et évidemment, donc, il y avait des brigands qui, à l'époque où on utilisait le quinquina, mélangeaient des écorces de cerisier pour... que le quinquina pèse un peu plus.
Qu'est-ce que c'est le quinquina ?
Le quinquina, c'est une écorce d'un arbre exotique qui est utilisé et qui est très efficace contre la fièvre à l'époque.
Okay.
Aujourd'hui, on utilise des produits synthétiques, mais voilà, à l'époque, ils utilisaient le quinquina. Ça, c'est un petit détail. Donc, évidemment, il y a toujours des brigands pour mélanger quand ça se ressemble. Et un truc que je trouve beaucoup plus amusant, c'est l'usage des fruits. Évidemment, tout le monde a fait l'expérience que quand on mange trop de cerises, c'est assez, laxatif.
Oui.
Donc ça, c'est une propriété que les enfants connaissent bien. Toi, t'as mangé trop de cerises. Moi, on me l'a déjà fait. Et il y a un médecin qui rapporte plusieurs exemples de mélancoliques guéris par la décoction de cerises desséchées. Donc, si vous êtes mélancolique, vous faites sécher des cerises et vous en faites une décoction.
Okay.
Et l'autre anecdote, alors ça, voilà, si vous connaissez quelqu'un de maniaque autour de vous,
oui.
Eh ben, certains maniaques ont été rendus à la raison après avoir mangé des quantités considérables de ce fruit. Voilà. Donc si vous avez
attesté
tendance maniaque, achetez-vous des cerises. Et voilà, ça sera mon mot de la fin.
Merci Aymeric Silman.
À bientôt.
À bientôt.
À la prochaine.
Et voilà, cette émission de Palabres en forêt s'achève. À bientôt Margot.
À bientôt Virginie.
Palabres
en forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs.
Avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h.
Et un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Barthès.
107 FM. Latitude 500, longitude 36.